Notes de comptoir. La vie du territoire au travers des cafés-concerts, bars associatifs, guinguettes et micro-lieux. Un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec SuperMab, le réseau des scènes et musiques actuelles, le collectif Culture Barbare et Radio Boa.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série consacrée aux micro-lieux de diffusion des musiques actuelles en Bretagne, Notes de comptoir. Dans ce nouvel épisode, direction Brest pour découvrir ce bar qu'est le Grabuge, un bistrot culturel où Pierre-Louis Le Seul de Radio U est allé ouvrir son micro à Maxime et Steven, les gérants de ce bar, où stand-up, DJ set et concerts agitent les soirées. Et en seconde partie, nous retrouverons Cédric Gomina-Fautrel, coordinateur de Fréquence Mutine à Brest, organisateur de soirées-concerts, foire aux disques et plus largement passionné de musique. Cette figure qu'est Cédric à des nuits brestoises partagera son point de vue et ses préoccupations sur l'avenir des concerts dans ses cafés culturels. Mais avant, direction Le Grabuge à Brest, un reportage de Pierre-Louis Le Seul de Radio U.
Cette semaine, Note de comptoir vous emmène à Brest, dans le quartier de Recouvrance, direction le Grabuge. Et le Grabuge, c'est avant tout une histoire de copains.
Moi c'est Steven, j'ai 33 ans, je suis opticien de formation. Je connais Max depuis le lycée et donc c'est de cette amitié-là qu'est né le projet d'ouvrir un bar.
Moi c'est Maxime, j'ai toujours 34 ans. On s'est rencontrés effectivement à Kerichen au lycée et moi j'ai fait des écoles de commerce et j'ai travaillé dans des bureaux pendant quelques années avant de vraiment vouloir me reconvertir et pas faire ça. Et du coup c'est en sortie de Covid qu'est née l'idée du bar. Et du coup j'ai travaillé au Tiernanoc pendant 6 mois pour me former et le Grabuge est né.
Le bar il se trouve à Recouvrance, juste après le pont, rue de la Porte. Avant ça c'était un bar qui s'appelait le National, qui était un bar PMU Française des Jeux. On a rénové. À le décrire, il y a une première salle dans laquelle il y a le bar, le comptoir, avec des tables, des chaises, dans une ambiance bleutée.
Ouais, c'est ça, un bleu Grabuge. Et une deuxième salle, deux salles qui font à peu près les mêmes superficies, avec la première salle, donc le long comptoir qui fait à peu près 7 mètres de long, qui est un espace de vie à part entière dans le bar. Et la deuxième salle, pareil, qui fait à peu près 45 mètres carrés et qui permet là d'autres possibilités.
C'est quoi vraiment l'histoire, la genèse de ce projet ?
Je pense que c'est né sur des soirées un peu trop arrosées il y a longtemps, des soirées étudiantes. Voilà, ça a été une blague pendant longtemps. Et puis, je pense comme beaucoup de gens, effectivement, après la période Covid, confinement, il y a eu des envies d'autre chose, changer un peu d'univers, de façon de travailler, voilà, et on s'est retrouvé, on en parlait depuis longtemps avec Max, et puis on s'est retrouvé à un moment donné où on avait tous les deux envie de faire autre chose que ce qu'on faisait à ce moment-là, et puis du coup ça concordait au niveau temporel, on avait les mêmes envies au même moment, et puis on s'est dit vas-y quoi, on y va.
Et du coup, vous aviez déjà un concept de bar en tête, comment vous l'aviez réfléchi ce projet?
Nous du coup on est un peu vécu en même temps que notre manière de boire des bières l'apparition des brasseries artisanales dans le coin, et ça a été un déclic, c'est à dire qu'en fait on s'est dit en fait c'est chouette d'avoir ces endroits où on peut découvrir ces bières là, avoir des nouvelles brasseries qu'on connaissait pas avant, et c'est comme ça qu'est un peu né le concept à la base de vouloir travailler avec des brasseries, des bières craft et des brasseries artisanales.
Pourquoi le Grabuge ? Comment est venu le choix du nom ? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous ? Qu'est-ce qu'il veut dire ?
C'est la conjointe de Steven qui nous a suggéré ce nom-là, et ça a tourné dans nos têtes pendant quelques jours. Et en fait, on s'est dit que c'était assez logique. On avait un peu peur de provoquer le destin, parce que du coup, les images aujourd'hui associées à Recouvrance, c'est un quartier où il n'y a plus grand chose et où c'est un peu chaud. En fait, ça nous faisait aussi un peu marrer de faire ce pied de nez-là en appelant le bar le Grabuge. Et en fait, nous, on est contents de ça, tout se passe bien et en fait, ça résume un peu tout. On parlait du mobilier tout à l'heure, c'est un peu le bordel, tout est dépareillé, mais tout se passe très bien, c'est chouette.
Excusez-moi, le gravé va combien en gros, par contre ?
Ouais, au début c'était vraiment on va monter un bar, on va travailler avec des bons produits artisanaux, etc. Et le côté un peu finalement on pourrait dire bistrot culturel, il était pas, enfin c'était pas forcément l'objectif au début.
Non, pas forcément. Enfin, ça c'est né avec en visitant le local ici où. En fait, en voyant l'endroit, la place qu'il y avait, le fait qu'il y ait deux salles séparées, etc., c'est en visitant à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, l'endroit, il est chouette, il y a moyen d'y faire quelque chose de vraiment sympa et de l'animer, en fait.
Il y a tout de suite eu, au moment de faire les travaux, cette idée de dire, il faut qu'on réserve une partie pour un espace scénique. Mais effectivement, je pense qu'à ce moment-là, on n'avait pas non plus conscience qu'on organiserait autant d'événements et que ça prendrait une part assez importante dans la vie du bar, ouais.
Toi, en tant qu'artiste, tu vas monter sur scène tout à l'heure. Comment tu te sens au Grabuge ? Comment on est accueilli ?
On est accueilli, comme on dit classiquement, comme à la maison. À savoir qu'on a déjà joué ici, et ça s'était trop bien passé, parce que c'est des copains de toute façon, et que là, quand on leur a dit « Ouais, on veut refaire, vous êtes chaud ?» Ils n'ont pas hésité une seconde.
Ben, du groupe donc, Thousand Degrees.
Là même, on peut installer tout ce qu'on veut, tu sais, les strass. Nous, on a notre petite boutique. Et puis, le fait d'avoir une salle au fond, c'est un peu énorme. Je pense que c'est un des seuls bars, en vrai, j'en connais pas d'autres, à Brest, qui fait ça. Et ouais, c'est un plus énorme, parce que du coup, c'est une salle où t'enlèves tout. Et c'est vraiment fait, tu sais, t'as une estrade et tout, quoi. Y a pas de, quand tu joues en bar, normalement, t'es pas surélevé, t'es pas là, on a une scène pour nous. Et l'endroit pour les gens, il est gigantesque. Rempli, souvent, mais gigantesque. Du coup, c'est un point bar, en vrai. Du coup, non, c'est génial. Ça, pour des icos, en vrai, c'est trop bien. C'est trop, trop bien.
Est-ce que, en dehors de ta casquette de Zikos, tu viens en tant que pote, consommateur
Je viens de temps en temps prendre des petits cafés et tout, j'aime bien le... Tu sais, il y a un délire un peu... les canapés et tout, un délire très, très cocooning en après-m. Du coup, j'aime bien venir de temps en temps ouais, pour prendre des petits cafés l'après-m. Puis après, on a fait des soirées ici. Bah déjà, les pros du stand-up. Donc, quand t'as des soirées stand-up, tu viens là. Puis sinon, ouais, pour faire la fête, quoi, c'est... Tu sais, même la salle de derrière, quand il n'y a pas de concert ou quoi, bah en fait, ça fait grave de la place pour les gens, avec des grandes tablées et tout. Donc, c'est black cool. Si je devais décrire le Grabuge, je dirais molletonné, c'est-à-dire très confortable. Un endroit où on se sent au chaud et confort. Gros big up à eux pour nous inviter à chaque fois et qu'à chaque fois, ça se passe méga bien. On se sent bien avec vous, les amis du bar.
Si on revient sur la partie que j'ai envie d'appeler bistrot culturel, je sais pas comment d'ailleurs vous définissez.
Ben, c'est marrant parce que je pense qu'on l'a pas encore vraiment assimilé. Enfin, quand on parle du bar, je pense qu'on continue à axer la partie bière artisanale, mais c'est vrai que quand on se penche sur les événements qu'on organise et la récurrence des événements qu'on organise, on est aussi devenu un lieu culturel. Mais qu'on n'a peut-être pas encore facilement assimilé nous-mêmes.
Ouais, parce que quand tu regardes sur les concerts, on n'en fait pas et quand même régulièrement, mais c'est pas non plus tous les week-ends. Il n'y en a pas. La somme de concerts sur l'année, elle est pas énorme. Mais quand tu rajoutes à ça tous les autres événements quand on parle de l'agenda, au final aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de trous dans le gruyère. Quoi. Des fois, c'est bien chargé. Quoi.
Vous êtes un bistrot culturel malgré vous.
Ouais, c'est un peu ça, je pense.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Quand on compare l'événement, l'agenda de la première année et l'agenda de la deuxième année, ça n'a rien à voir. Effectivement, maintenant, on a rarement une semaine sans événement, ce qui n'était pas le cas au début.
Ouais, on a beaucoup de sollicitations, et je pense que c'est ce qui participe aussi au fait qu'on ait aujourd'hui encore un peu du mal à se définir comme étant un bistrot culturel, ou à s'en rendre compte, en tout cas, parce qu'on a effectivement... Nous, pas beaucoup fait de démarche d'aller rechercher des animations, des propositions culturelles. Et on a beaucoup de sollicitations et ça a commencé comme ça. Et en fait, on continue à en recevoir. Et après, on a le luxe de pouvoir un petit peu les choisir. Et du coup, donner un peu le ton qualitatif, si je peux me permettre, de, des animations et des propositions culturelles qu'on accueille ici, quoi.
Ouais, on a vraiment la chance d'avoir des propositions qui sont vraiment chouettes et en plus qui nous bottent. Donc en fait, tout se goupille très bien. Ouais.
Des pas finaux. Et eux, c'est non, non, non. Hein. Les pas finaux, c'est non, non, non.
Les machos, les sexistes, la milice facho du Life Club 88 à Rennes.
Putain, c'était non, non, non.
Ah, les pas finaux. Ça, c'est des pas finaux.
Comme justement, on avait pas spécialement l'idée ou la vocation de devenir un bistrot culturel, on s'attendait. Par exemple, si on prend la première soirée stand-up qu'on a organisée, la communication, elle a été faite un petit peu... C'était un peu bancal, on a communiqué hyper tard. Il y avait un événement Facebook sur lequel il y avait 4 intéressés. On s'est dit, ouais, ça va être chaud. Et en fait, on s'est retrouvé avec le bar plein craqué, plus de place pour voir le stand-up. Et puis voilà, en fait, il y a pas mal d'événements comme ça qui nous surprennent un petit peu au fur et à mesure. Mais parce que le premier concert, il y avait beaucoup de monde. On s'est dit, ouais, c'est quelque chose quand même, un concert dans un bar. Et puis, au fur et à mesure, avec la com, etc., il y a de plus en plus de gens qui viennent et nous, on s'y fait petit à petit, quoi.
Ça reste marquant parce que vraiment, il y avait 4 humoristes qui étaient là, 4 personnes qui devaient venir pour l'événement Facebook et on était là genre, ils vont vraiment jouer devant personne, c'est terrible, ça va être très long et très gênant.
C'est des gens qui avaient une petite notoriété en plus, donc une petite...
Et en fait, on a dû à la hâte enlever des tables de la salle... Enfin, ouais, ça faisait partie des vrais bons moments, des premiers moments où on s'est dit, bon, ok, quand il y a des événements, il y a du monde qui vient, et c'était chouette, ouais. Après les histoires, c'est les complicités avec tous nos clients réguliers, on se rend pas compte, mais en fait, on s'est fait pas mal d'amis aussi maintenant, des gens qui reviennent régulièrement, et avec qui c'est appréciable de passer une soirée, c'est tous ces petits moments-là qu'on apprécie et c'est des belles anecdotes, ouais, qu'on racontera sûrement plus tard.
C'est deux gars hyper chouettes et à chaque fois ce Biancat, la règle là il vient de me dire pour les lumières tu me dis t'hésites pas et tout. C'est vraiment à notre disposition et c'est hyper agréable.
Quentin parce que, du groupe Thousand Degrees.
C'est pas facile quand on est un bar des fois d'assumer des gros événements culturels et eux ils le prennent à cœur joie et à cœur ouvert, quoi.
Quelque part c'est un bistrot culturel malgré eux. T'en penses quoi, toi?
Moi je trouve si c'est malgré eux. C'est quand même. Ils l'ont un peu cherché quand même, parce qu'ils sont arrivés, ils ont débarqué à Brest avec une programmation qui est quand même hyper riche et hyper variée. Ça peut. On passe quand même d'un. Hier c'était la libido qui passait, aujourd'hui c'est la soirée Thousand Degrees. Demain c'est un takeover de Nebula Radio. Enfin, ça donne l'impression que ça s'arrête jamais. Donc si c'est malgré eux, ils l'ont bien cherché, quoi. Et petite anecdote, au début, il était le tout premier jour quand on est arrivé ici, il était super vide et je me suis dit waouh. S'ils réussissent à transformer ça vraiment en quelque chose de chaleureux, parce que c'était tout bleu, tout immaculé, et ils ont réussi à faire de cet endroit bleu et vide, qui est un espace qui est hyper chaleureux. Donc chaleureux, je m'arrêterai là-dessus.
Voilà à l'instant un reportage tourné au bar Le Grabuge à Brest par Pierre-Louis Le Seul de votre radio locale universitaire brestoise Radio U. Pour aller un petit peu plus loin sur ce que l'on a pu entendre et en découvrir davantage sur le paysage des lieux de diffusion des musiques alternatives brestoises, finistériennes ou encore bretonnes, on a décidé d'en causer avec un passionné. Il s'agit de Cédric Fautrel alias Gomina. Salut à toi Cédric.
Salut Clément.
Cédric, tu es passionné de musique, on te retrouve parfois derrière les platines, d'autres fois organisateur de soirées-concerts ou de foires au disque, mais aussi derrière le micro de Fréquence Mutine, une radio libre, alternative et engagée, basée à Brest. Pour commencer, Cédric, comment tu as réagi au reportage tourné au Grabuge ?
Écoute, faut savoir que le Grabuge, c'est un peu la dernière bulle d'oxygène qu'on puisse avoir à Brest en termes de lieu de diffusion alternatif. Donc évidemment, moi, j'étais ravi que Pierre-Louis mette à l'honneur ce lieu. Il faut savoir que c'est quand même très compliqué pour nous à Brest actuellement. Il y a eu pas mal de lieux qui ont eu des soucis ces dernières semaines, voire ces derniers jours, en se prenant des interdictions, des fermetures. Donc pour les musiques alternatives, c'est très compliqué. D'ailleurs, il y a une sorte de collectif qui essaie de se monter pour se mobiliser autour de cette question.
Alors, en tant qu'acteur historique de Fréquence Mutine, tu as toujours soutenu les musiques alternatives. Tu ressens quoi aujourd'hui face à l'énergie qu'on retrouve dans ces petits lieux, malgré le contexte dont tu viens de nous parler ?
Bah déjà, c'est que c'est vital. Ça a toujours été le cas, ça le sera toujours. Si tu n'as pas ces lieux-là, tu n'as pas de développement. Si tu n'as pas de développement, tu te retrouves avec des projets formatés qui atterrissent sur des grosses scènes sans avoir aucune expérience, sans finalement longévité réelle non plus, parce que ça peut pas exister, quoi. Donc, c'est des endroits qui, de tout temps, ont contribué au développement des musiques et pas que de la musique en général. Donc, leur importance est essentielle.
Alors, Brest a toujours eu cette réputation de ville où la musique alternative trouve refuge, dans des lieux, disons, parfois improbables. Est-ce que tu trouves que cette identité tient encore aujourd'hui ?
C'est difficile. Moi, le problème, c'est pas un problème en fait, mais ce qui va se passer là, c'est que ça va devenir de plus en plus opaque, ça va devenir de plus en plus clandestin, ça va devenir de plus en plus alternatif. Il y a, en tout cas, si on prend Brest même en tant que ville, ça va se passer dans des caves, sans réelle communication, dans des conditions aléatoires, qui ne sont pas du tout dignes de quelques performances artistiques que ce soit. Donc, on va en arriver là. Et puis, l'autre conséquence va être plutôt de s'aventurer en dehors de Brest, là où... le territoire est encore un peu clément pour ce genre de proposition.
Alors dans le reportage que Pierre-Louis a tourné au Grabuge, on comprend quand même que les assos proposent des soirées. Il y a cette possibilité que le Grabuge offre aux assos du territoire, alors que le bar au départ n'avait pas vraiment vocation à devenir un bistrot, concert ou café culturel. Ils le sont un petit peu malgré eux. Mais voilà, on sent quand même une solidarité entre les acteurs actrices. Est-ce que toi, tu observes quand même, malgré tout ce qu'on se raconte depuis le début, un réseau local quand même assez soudé ou finalement fragile ?
Les acteurs se connaissent, ça c'est une certitude. De toute façon, tout le monde est quasiment confronté aux mêmes problématiques. Donc finalement, tout le monde se retrouve sur ces questions-là, que ce soit de grosses associations qui, elles aussi, se creusent la tête pour pouvoir trouver des nouveaux lieux ou de nouvelles possibilités de diffuser, comme les plus petites qui sont vraiment à cravacher pour organiser leurs premiers événements. On a encore, évidemment, tu parles du Grabuge, qui est un lieu qui est devenu essentiel, même si c'était pas forcément leur objectif à la base. Un lieu comme ça qui dispose d'une salle, pas forcément équipée, mais du moins qui est suffisamment grande pour accueillir des concerts, évidemment, attire un petit peu tous les acteurs du coin. Ce n'est pas sans risque pour eux, de toute façon non plus, parce qu'il y a aussi un voisinage à gérer. Mais c'est vrai ce qui peut vraiment cristalliser un peu et unir tous ces acteurs sur Brest, c'est ces questions qui sont liées à où proposer nos soirées, où diffuser, clairement. Et ça touche tous les styles de musique. Peut-être en effet qu'en musique électronique on est un petit peu moins concerné parce que on a la chance d'avoir des boîtes de nuit qui proposent pas mal de soirées électro, pas mal de bars qui en proposent. Il n'y a pas cette notion d'ampli, de guitare, de batterie qui peuvent créer peut-être un peu plus de nuisances. Et puis ils ont aussi pas mal d'open air toute l'année où ils ont réussi à créer ça, on en est quand même au même point, et c'est vrai que tout le monde se côtoie, tout le monde se soutient et tout le monde échange sur ces problématiques.
Alors, à travers les ondes de Fréquence Mutine, vous donnez la visibilité aussi à ces initiatives. Quel rôle une radio comme Mutine peut jouer pour soutenir ces micro-scènes et leur public? J'imagine qu'il y a des valeurs communes.
Quand tu es une radio activiste, tu as forcément dans ton sein des activistes. Ce qui veut dire que bon nombre de bénévoles qui font la radio sont des gens qui, à côté, font partie d'associations, mènent des associations, organisent des concerts, sont eux-mêmes artistes ou musiciens. Et bah, du coup, oui, on est tous dans le... Ou alors public, on va dire, friand et passionné de spectacle. Donc oui, nous, notre mission, elle est claire et nette. Hein. On défend des musiques alternatives de tout style depuis tout le temps, depuis 82. Ça fait partie de notre ADN et de participer à cela, de communiquer un maximum sur toutes ces initiatives qui sont portées par les assos, les nouveaux collectifs qui apparaissent. On essaye d'être au courant, de relayer au maximum leurs actions, leurs activités, de les inviter en studio pour venir en parler et puis partager ces questions-là. Mais c'est vrai que le média radio associatif comme Mutine ou comme peut l'être nos petits pods de Radio U, ben voilà, on est d'une certaine façon aussi les seuls médias relais pour pouvoir leur apporter de la visibilité en dehors d'agenda alternatif.
Malgré le contexte dont tu parlais tout à l'heure, les associations, elles, continuent de fleurir, j'ai l'impression. Elles poussent aussi, elles continuent à émerger aussi.
Ouais, alors, sauf que c'est de plus en plus obscur, parce ouais. qu'on nous pousse à être moins visible, donc c'est souvent, maintenant, c'est plus vraiment des assos, c'est plutôt des collectifs de gens passionnés qui s'assemblent et qui font ça sans réelle structure, de façon un peu souterraine et clandestine. Et c'est forcément un peu délicat parce que ça perd en visibilité, mais ils ne veulent pas être visibles parce que de toute façon, ils se font taper sur les mains. Donc à un moment, on peut les comprendre. Mais je pense qu'il y a un peu moins de lisibilité. Par contre, oui, une dynamique toujours présente, ça c'est certain, malgré le contexte et le problème. Mais voilà, sans doute quelque chose de plus confidentiel.
Alors, tu as vu pas mal de lieux ouvrir et fermer à Brest. Est-ce que tu as des souvenirs de cafés-concerts ou de squats musicaux qui t'ont marqué et ont disparu et est-ce qu'ils avaient qu'est-ce qu'ils avaient de précieux à tes yeux?
Ah ouais, j'en ai vu un paquet hein, au fur et à mesure des années. On peut remonter à des endroits comme le Jukebox Théâtre, qui était un lieu qui permettait de faire des concerts et d'avoir aussi un lieu de répétition, autant pour des gens qui faisaient du théâtre que pour de la musique. Ça n'a pas duré très longtemps. Pourtant, c'était bien situé, il n'y avait pas de voisinage. Évidemment, plus récemment, on a eu le Petit Minou, qui était un super café-concert. On avait énormément de concerts et tout le monde est orphelin de cet endroit hein, qui était basé sur le port. Il y a eu des initiatives beaucoup plus alternatives aussi, de squats. Je pense à un squat Rive Droite qui était assez génial, hein, qui drainait toute la scène punk et hardcore il y a déjà au moins 20 ans. Je ne me rappelle plus le nom de ce lieu-là. Il y avait sous le pont aussi du Forestou, on avait un squat pareil qui a peut-être duré pendant 2 ans où on avait pas mal de concerts de punk. On a eu quelque chose qui s'appelait Les Trois Chats aussi, si je me rappelle bien, qui proposait pas mal de concerts. Ce genre d'endroit, en tout cas, n'existe plus vraiment, du moins dans ces dimensions-là, même si le squat de base n'était pas forcément fait pour durer. Maintenant, tu sens que ça devient hyper compliqué, le dernier en date étant évidemment l'avenir hein, qui a disparu avec perte et fracas.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces lieux puissent exister, perdurer sereinement, selon toi, Cédric?
Je ne sais pas, il faut le demander à la mairie, à la sous-préfecture.
Très bien, il faudra poser la question à ces différentes collectivités. Le Finistère, en revanche, a une scène indé quand même qui rayonne au-delà des frontières. Cédric, comment tu expliques ce terreau fertile qu'il y a du côté de Brest et même du département pour les musiques alternatives?
Bah parce qu'on aime bien ça, parce qu'on a du goût, parce qu'on est des gens qui aimons pas rester chez soi, on aime... pense qu'on est des gens dotés d'une curiosité supérieure à d'autres.
On sent le chauvinisme brestois. Très bien. Et puis enfin, pour terminer, Cédric, si tu devais peut-être dresser le portrait idéal du micro-lieu qui irait bien à Brest aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi ?
Ah, bonne question. Alors si je vais prendre en exemple un micro-lieu existant, que j'aimerais bien voir, naître ou renaître à Brest, je pense que pour moi, l'exemple de Barbe à Plouas, parce qu'en termes de capacité, je trouve que c'est juste parfait. Je ne sais plus combien il fait, il doit faire 120, 200, 150, quelque chose comme ça. Tenu par un ancien musicien qui connaît la poloche, un endroit bien équipé, convivial, qui franchement prend des risques aussi en organisant beaucoup de concerts par mois. Voilà, nous, c'est ce genre de lieu clairement qui nous manque sur Brest. Et pour une ville comme Brest, c'est étonnant de dire qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose d'équivalent. Mais voilà, il y a d'autres contraintes qui font que ça semble très compliqué. Peut-être un autre exemple, mais qui n'est pas forcément en Bretagne, ce serait le Joker's Pub à Angers, qui a été monté par un Brestois. C'est et qui lui a carrément créé une sorte de bunker en pleine ville pour éviter les nuisances sonores. Donc bon, mais c'est ouais. Alors le petit minou était génial, franchement, c'était bien localisé, il n'y avait pas de problème de voisinage, il n'y avait rien en tout cas en termes de bruit. Il y avait plus des problèmes de gestion qui ont fait que le lieu n'a pas tenu. Mais je pense qu'on a paradoxalement en fait, on a encore les endroits où on pourrait développer ce genre de lieu. En respectant le voisinage, en respectant la vie nocturne, qui n'est pas de nuisance. Mais bon, après, c'est des choix politiques, hein, j'ai envie de dire. Ce n'est pas que des choix de structure. Hein. Il y a eu un projet il y a peut-être 2 ans d'un collectif d'associations qui s'appelait le Fun Club Rat de Brest, qui avait décidé de racheter du côté de Quirinou un bâtiment pour en faire un lieu culturel. Et il faut savoir que juste avant le rachat, le lieu a été préempté par la ville de Brest. Voilà.
Pour terminer, Cédric, est-ce que tu as un groupe ou un artiste ou une artiste brestoise, brestois, finistérienne, finistérien à nous proposer, ou en tout cas la dernière petite claque que tu as pu avoir ?
Ah, ça, tu me prends de court. Oh là là, c'est compliqué. Ah si, je dirais peut-être un dernier. Alors, il y a deux trucs que j'ai bien aimés récemment. Il y a le premier album de No Pain No Pen, qui est un groupe de Landerneau, qui fait une sorte de rock, post-rock instrumental assez puissant. J'ai été assez surpris parce que je suis pas forcément si de musique que j'écoute, mais je trouve que c'était très qualitatif. Et j'ai été aussi assez bluffé par un Brestois d'adoption qui s'appelle David Nofig, qui fait une sorte de pop psyché, qui sort un album là d'ici peu, et qu'on a pu faire découvrir très récemment à nos auditeurs et nos auditeurs à Mutine. Et pareil, j'ai été agréablement surpris par la qualité des compositions, par la qualité du chant, ces choses-là, quoi. Et en dehors de ça, bon. Ici, on a la chance d'avoir une scène punk qui est très dynamique, donc il y a toujours 1000 projets de qualité qui en ressortent.
Eh bien, on va aller découvrir ça, écouter ces différents groupes que tu viens de nous citer. Merci beaucoup pour ces recommandations et merci aussi d'avoir apporté ton regard sur ces lieux, sur la scène alternative aussi brestoise. Cédric, je rappelle que tu es donc le coordinateur de Fréquence Mutine, DJ à tes heures, passionné et organisateur de soirées, concerts. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast.
Merci.
C'est la fin de cet épisode, alors pourquoi pas se faire une petite virée dans l'un de ces lieux près de chez vous pour les soutenir et continuer de vibrer au son de ces artistes et groupes programmés. Si ce n'est pas possible là tout de suite, vous pouvez toujours réécouter cet épisode consacré au Grabuge et continuer votre périple de découverte des micro-lieux de diffusion des musiques actuelles en Bretagne sur corlab.org. À bientôt pour un nouvel épisode.
C'était Notes de comptoir, un magazine produit par la Corlab et par Radio Boa, la radio régionale associative bretonne en DAB+, avec le soutien du Centre national de la musique.